C'est le dimanche de la mission, vous l'avez compris, donc je refais la petite pub. Le magazine est disponible. C'est un magazine auquel j'ai moi-même contribué, donc la photo vient de moi. Voilà, c'est pas un truc étranger, bizarre, non, c'est nous qui le faisons, donc prenez cela à cœur, lisez-le, et ça va alimenter aussi vos sujets de prière. Et c'est vrai, depuis 1955, notre fédération d'église a participé à la création de cette mission, Mission Baptiste Européenne. Aujourd'hui, le sigle a changé, c'est plutôt Église Baptiste en Mission, mais voilà, c'est une mission qui travaille dans plusieurs pays, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Et dans notre fédération, nous avons une commission missionnaire. Nous, en tant qu'anciens missionnaires, Laurence et moi, nous sommes membres de cette commission et nous nous engageons une fois par trimestre à nous rencontrer pour soutenir les missionnaires que nous envoyons partout dans le monde. Alors, il n'y en a que trois, hein, mais ça fait quand même du boulot. Notre église de Clermont-Ferrand est une vraie église missionnaire. Vous l'avez noté, Philippe l'a souligné. Nous recevons régulièrement les missionnaires ici, dans cette salle, pour entendre parler d'eux. Et c'est vraiment réjouissant parce qu'il y a d'autres églises qui sont très en retrait. Et de ne pas voir les missionnaires, de ne pas entendre leurs témoignages, ben, automatiquement, il y a moins de prières et moins de soutien. Donc, vraiment, c'est une grâce pour votre église, enfin, notre église, Clermont-Ferrand, d'avoir cet esprit missionnaire depuis des années. Déjà, nous-mêmes, quand nous étions missionnaires au Cameroun, on l'a fortement remarqué, mais ça continue aujourd'hui. Vraiment, c'est une grâce pour notre fédération d'avoir des églises qui soutiennent le travail des missionnaires. Soyez bénis pour cela. Je ne vais pas répéter tout ce que Philippe a déjà dit, je l'avais un petit peu noté, mais je raccourcis. Mais en fait, être missionnaire, qu'est-ce que c'est? Allez, les enfants sont partis, je vais interpeller les jeunes, les lycéens qui sont restés parmi nous. Les jeunes, bon, allez, les jeunes adultes si vous voulez, qu'est-ce que c'est qu'être missionnaire? À vous la parole. Je regarde bien là, Allez, être missionnaire, ou quelqu'un peut-il les aider? Non? Il y a un doigt, vas-y Nathan. Oui? C'est très 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 bien répondu, hein. Je n'ai rien à rajouter, je crois que je vais arrêter ma prédication. Donc, faire la mission de Dieu. Ça, c'est la première chose. Ça peut être au loin dans les pays outre-mer. Il faut prendre l'avion ou le bateau. Et ça peut aussi être ici au local, puisque par les lois de la migration, les hommes, les femmes de tout peuple viennent jusqu'à nous. On n'a même plus besoin d'aller loin pour les rencontrer. On peut faire des économies de billets d'avion. C'est quand même incroyable. Et donc, être missionnaire, merci. Nathan, c'est un peu comme être disciple, et ça tombe bien, puisque le slogan, hein, la mission de l'Église, c'est être des disciples qui font des disciples. Et donc, pour moi, c'est indifférent, comme l'a dit Nathan, être missionnaire, être disciple, c'est du vocabulaire. Mais ce qui est important, c'est être proche de Jésus, être disciple, pour ensuite faire, aller au loin, servir Dieu, faire des disciples. Vous comprenez ce que je veux dire. Il y a deux étapes. Première étape, c'est l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit je suis? Je suis disciple, je suis missionnaire. Et ensuite seulement, deuxième étape, c'est parce que je suis posé en Jésus que je peux aller faire. Vous voyez, c'est ça qui est important. Si je fais quelque chose, même si c'est la meilleure chose pour l'Église ou pour Dieu, si je ne suis pas d'abord bien ancré en Jésus, c'est totalement inutile. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Alors, il y a plusieurs textes qui parlent de la mission de Jésus. Nous en avons étudié quelques-uns dans le cadre des groupes de maison, donc on ne va pas les relire, je vais juste les citer pour vous permettre, pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire et vous donner envie, ben, écoutez, à la maison, hein, de relire ces textes. Alors, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, verset 36, je cite, « Jésus est rempli de compassion pour les foules, car elles sont blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » C'est vrai que, quand on est sensibilisé à cela, de savoir que les personnes n'ont pas de soutien, de berger auprès de qui s'appuyer, alors nous avons envie de leur parler de Jésus qui peut être le bon berger. Et Jésus nous demande donc de prier le maître de la moisson pour avoir plus d'ouvriers pour aller à la recherche de ces brebis qui sont égarées sans berger. Matthieu 10, verset 1, je cite, « Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Jésus appelle, il forme ses disciples, ensuite il les envoie. Les versets les plus connus, quand on parle de mission, c'est Matthieu 28, les versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Bon, je ne cite pas tous les deux versets, mais c'est ça. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Jésus donne l'ordre de nous mettre en route. Dans Luc, chapitre 9, chapitre 10, c'est le message, c'est parallèle, donc sans entrer plus dans le détail. Alors, être missionnaire ou être disciple, nous pouvons mieux comprendre ce que c'est en étudiant en particulier l'évangile de Matthieu, puisque au début, Jésus a appelé ses disciples, tout juste pour être disciples. Dans les premières années, Jésus ne les a pas mis au travail, si ce n'est la mission dont on vient de parler dans Matthieu 9 et 10, ils ont fait un petit circuit. Voilà, c'était plus un exercice ou un stage. Hein. Comme ils sont en formation de disciples, voilà, c'était un stage pratique. Mais c'est plus tard qu'ils ont dû aller vraiment faire ce travail de la mission. Donc au début, pendant les 3 ans du ministère de Jésus, les disciples sont là dans l'écoute, dans l'apprentissage d'être disciples. Et on l'a étudié il y a 2 ans dans les groupes de maison, en particulier le sermon sur la montagne que l'on lit dans Matthieu, les chapitres 5 et 7. Ce sermon sur la montagne, c'est le discours de Jésus qui est un résumé du manuel du disciple. Alors, ceux qui ont assisté à ces groupes de maison, vous avez les documents qui nous ont permis de faire ces études. Ceux qui peut-être sont arrivés après ou qui n'ont pas pu suivre ces études, certainement qu'il est possible, hein, demandez à l'un des responsables de l'Église, on peut vous mettre à disposition ces documents, mais ça nous a permis, pendant ces quelques mois d'études sur les discours de Jésus dans Matthieu, de mieux comprendre qu'est-ce qu'être disciple. Et je ne vais pas tout reprendre les 3 chapitres du sermon sur la montagne. Là, je vous renvoie aux études bibliques qu'on a faites à ce moment-là, mais je vais vous lire les 4 derniers versets. C'est dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis, c'est Jésus qui parle, hein, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. » Et donc, Jésus termine son discours avec ces deux images. Et ça nous interpelle, en tout cas moi ça m'interpelle. Être disciple, bien sûr, c'est écouter les paroles de Jésus. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là, présent dans l'Église, pour écouter la prédication. Mais c'est plus qu'écouter. C'est aussi entendre. Parce que écouter, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Alors que entendre, ça rentre des deux côtés et ça rentre dans le cœur. Ça veut dire qu'on les comprend. Et ça nous permet d'écouter, de garder ces paroles dans notre cœur, de les méditer quand nous sommes à la maison, le soir, peut-être la nuit, quand nous avons des insomnies, pour pouvoir y revenir. Et c'est ainsi que ce qu'on a appris dans les groupes de maison sur Matthieu il y a 2 ans, mais va nous servir toute notre vie. Si après le groupe de maison de 2023-2024, nous disons que « ah ben non, voilà, c'est passé », maintenant, on va étudier Jean ou alors je ne sais quel autre livre de la Bible. Et si on oublie ce qu'on a appris sur Matthieu, ben c'est dommage. Hein, parce qu'il y a tellement de choses merveilleuses que nous avons entendues dans le sermon sur la montagne. Donc, revenons-y. Mâchons ça. Retournons cela dans nos cœurs. C'est vrai. Certains d'entre vous, peut-être tous, vous avez déjà lu la Bible ou quelques extraits, et vous vous dites « Ah ben j'ai déjà lu, donc pourquoi encore relire ?» Alors c'est vrai que moi je ne me suis jamais lassé, et c'est très bien, il faut la lire, la relire encore. Et en fait, elle nous enseigne au quotidien. Ça m'arrive aussi par paresse ou bien par suractivité où je suis en vacances, peut-être sur le bord de la mer et je n'ai pas ma Bible sur moi. Et pendant 1 jour, 2 jours, 4 jours, 1 semaine, hop, pris dans les activités, j'oublie de lire la Bible. Mais je peux vous dire qu'après quelques jours, je commence à me sentir oppressé. Je commence à ne pas être à l'aise. Nous avons besoin de la Bible tous les jours, en tout cas c'est mon expérience. Quand je la néglige, je ne suis pas à l'aise. Je sens mon cœur qui n'est pas à l'aise, qui n'est pas tranquille. Et c'est un plaisir pour moi de revenir. C'est comme un enfant. Un enfant a besoin de son père tous les jours, de ses parents, de la nourriture. Et la Bible, c'est ça, ça nous nourrit. Et donc Jésus, quand il appelle quelqu'un comme disciple, il lui demande aussi d'être l'exclusivité. Ça veut dire qu'il demande tout. Voilà. Ce n'est pas qu'il demande un peu. Il ne demande pas seulement la dîme. Jésus, il vous demande tout. Par contre, il nous le rend en retour. Et ça, c'est par sa grâce. Mais comme il nous demande tout, vous voyez, comme ses disciples, il les a appelés pour les former comme disciples, Pierre a laissé sa barque avec les filets. Il a tout laissé. Il a abandonné son métier de pêcheur de poissons pour devenir pêcheur d'hommes. Jacques et Jean ont aussi laissé leur père avec la barque. Matthieu a abandonné son poste de percepteur d'impôts. Et je ne parle pas de tous les autres. Donc Dieu attend de nous l'exclusivité. Nous venons à l'Église. Voilà, merci, vous êtes venus aussi ce matin. Pour accomplir notre devoir de bon chrétien, un culte par semaine ou par mois, ça dépend des rythmes. Certains se contentent d'un culte par an, peut-être à Noël ou à Pâques. Une offrande, c'est pratique par le virement qu'on a vu tout à l'heure. On n'a même pas besoin d'y réfléchir, on peut même le programmer automatiquement. Et ça nous donne l'impression satisfaisante d'être un bon chrétien. Parfois même, nous sommes là à l'église et nous multiplions les paroles de nos bouches. Ah, Seigneur, Seigneur! Mais tout cela, Jésus l'a dit dans l'Évangile. Ce n'est pas cela, être disciple. Au contraire, Jésus, il nous demande plutôt d'être assis à ses côtés, écouter sa parole. Tout à l'heure, on parlait de David, le roi David, qu'on a pris comme type de Jésus au moment où on a allumé la bougie. C'est une figure qui nous prépare à comprendre Jésus et à le suivre. Jésus, lui, le Fils de Dieu. David, contrairement aux autres rois d'Israël qui faisaient ce qui leur plaisait, et en particulier le mal, David, lui, avait un cœur droit. C'était son attitude de cœur. Il avait un cœur droit selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il faisait qui était le plus important, mais c'était son attitude de cœur. C'était le programme qu'on a suivi avec les jeunes, les aigles, l'an dernier, dans le programme du Club biblique jeunesse. L'important, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est l'attitude de cœur. Parce que Dieu voit au cœur, il ne voit pas aux actes. Les actes, tout le monde peut en juger, mais Dieu voit au cœur. Et vous connaissez aussi cette histoire de Marthe et de Marie. Marie s'était assise au pied de Jésus pour l'écouter. Elle avait le cœur ouvert, alors que Marthe était dans l'activisme. Bien sûr, c'était une bonne chose d'avoir le repas de prêt à temps pour midi, n'est-ce pas ? Mais ce qui est important, c'est de ne pas négliger la parole. Marie, elle gardait ses paroles dans son cœur, mais c'est vrai aussi qu'ensuite, elle les mettait en pratique. Il ne faut pas non plus rester dans la contemplation. Il y a un temps où on apprend à être disciple, on est à côté de Jésus pour écouter ses paroles, et il y a un temps où il va aussi nous envoyer. C'est comme ça que les disciples ont suivi Jésus pendant 3 ans. Ils ont fait leur formation de disciples. Et ensuite, Jésus leur a dit, « Quand vous recevrez le Saint-Esprit, et donc effectivement, après la Pentecôte, ils sont allés partout. Ils ont annoncé l'Évangile à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, et jusque partout dans le monde, dans les extrémités de la terre. » Je ne sais pas si vous avez cette impression, mais moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est perdue, qui ne sait pas où elle en est. Et, à titre d'exemple, je suivais il y a quelques jours les paroles d'une chanson d'un chanteur français, Balavoine. Je pense que vous connaissez. En tout cas, c'est pas grave. Voilà ce qu'il dit, Balavoine, dans sa chanson. « De quel côté se trouvent les bons ou les méchants ? Leurs évangiles ont fait de moi un non-croyant. » Franchement, ces deux vers de la chanson de Balavoine, moi, ça m'interpelle. Quelle est cette société dans laquelle nous sommes ? Une société perdue. On ne sait plus où sont les bons et les méchants. Il n'y a plus de repères. Et pire, l'Évangile, qui veut dire bonne nouvelle, a l'effet inverse de ce qu'on attend. L'Évangile fait de moi un non-croyant. Waouh ! Moi, je me dis qu'il y a encore du boulot, quoi, hein, comme chrétien ou comme missionnaire ou comme disciple. Mais cet état d'esprit de la société, c'est tellement effrayant. Et j'imagine Jésus rempli de compassion pour cette société, pour notre société, qui lui tourne le dos, qui tourne le dos à l'Évangile, qui ne sait où aller, qui ne sait plus où est le bien ou le mal. Quel est mon cœur ? Quel est l'état d'esprit de mon cœur ? Est-ce que j'ai aussi cette compassion de Jésus pour ces gens qui ne savent pas où aller ? Dans les années 70, mon frère était fan de Alice Cooper, un autre chanteur. Là, c'était plus hard, c'était du rock metal. Sur scène, il avait une allure plutôt sombre, avec des maquillages noirs autour des yeux, pour ceux qui ont vu ces images. Et c'était plutôt effrayant. Et ma mère était désespérée de voir que mon frère suivait ce chanteur, qu'il affichait des posters dans sa chambre. C'était, bref, elle était désespérée. Par la suite, mon frère s'en est détaché et il a choisi de suivre Jésus. Alléluia. Cette semaine, figurez-vous, par hasard, je suis tombé sur une vidéo YouTube de Alice Cooper donnant son témoignage de chrétien. Incroyable. Et aujourd'hui, il n'a pas changé de style. Il chante toujours du hard rock metal. Il a gardé les maquillages noirs autour des yeux. Il a gardé le même style, mais dans ses chansons, ce sont des paroles de salut. Ce sont des paroles dans lesquelles il dit « Tu peux être dans la pire des situations, mais sache que Jésus t'aime. Il a versé son sang pour toi sur la croix, pour te sauver. » Et il raconte dans ce témoignage que de nombreux jeunes sont devenus chrétiens grâce à ses chansons. Alléluia. Comme quoi le hard metal C'est mauvais si on l'utilise mal, mais si on l'utilise bien, c'est comme tout. Hein. C'est l'usage qu'on fait des choses qui change. Alors, où est-ce que j'en suis ? Oui, il raconte donc que le plus important dans son témoignage, pour lui, c'est d'être dans la présence de Jésus. En fait, dans cette vidéo, il raconte qu'il a 4 ou 5 priorités. La première priorité, c'est d'être avec Jésus. Ensuite, bien sûr, il a sa vie de famille. Et ensuite, il est chanteur et chanteur de hard metal. Mais ça vient après. Sa priorité, c'est d'être avec Jésus. Voilà, retenez ça, c'est ça qui est important. Et alors, pour moi également, le plus important, c'est d'être disciple, d'être à côté de lui, écouter sa parole. Bien entendu, si j'écoute, je vais aussi obéir après à son appel. Voilà, pour faire des disciples. Et c'est en fait une bonne transition. Après un temps d'apprentissage comme disciple, vient le moment où il faut obéir. Il faut aller faire ce travail de missionnaire. Faire des disciples ou faire ce travail pour la mission. Il faut agir. C'est vrai que certains disent « Ah, on n'a pas de moyens, on n'est pas assez nombreux. » Mais Jésus, lui, lorsqu'il a envoyé ses disciples, il leur a dit « Prenez juste un bâton de marche, même pas une valise de rechange avec des habits. » Non, juste un bâton de marche. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi-même, je l'ai expérimenté. Je suis parti missionnaire au Cameroun. J'avais quand même... je crois, 7 cantines de 30 kilos derrière moi. Bon, voilà, j'aurais pu alléger les bagages. J'ai eu la grâce d'avoir une mission qui a permis cela. Donc, ce n'est pas non plus une mauvaise chose. Mais il ne faut pas que les moyens nous limitent. C'est pareil, Jésus a dit « Priez le Seigneur de la moisson d'envoyer plus de monde ». On l'a dit dans notre église, en ce moment, nous n'avons pas de pasteur. Ben, prions. Prions, ça fait partie du défi de prière de ce mois. Prions pour que le Seigneur envoie un pasteur dans notre église, qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Comme le disait Nathan, lorsque je l'ai interpellé sur qu'est-ce que la mission, il a bien répondu. Nous ne sommes pas tous appelés à aller dans le même village, à l'autre bout du monde, pour annoncer l'évangile. Certains sont appelés à aller au loin, mais d'autres sont appelés à rester, à être témoins aux proches, auprès de vos proches, dans la famille, dans votre travail, vos voisins. Et ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit appelle l'un ou l'autre d'entre nous, chacun pour une tâche spécifique. Dans l'Église, nous avons plusieurs activités. Nous sommes invités, chacun, à nous engager dans une activité qui correspond bien sûr à nos goûts, à nos talents. Il vaut mieux, surtout pour les musiciens, il vaut mieux des musiciens talentueux. Mais on peut toujours apprendre, n'est-ce pas ? Voilà, donc Dieu nous appelle selon nos goûts, nos talents, mais il peut aussi nous appeler à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et alors, qu'est-ce que nous répondrons ? Ah non, non, ça, c'est pas pour moi. Par exemple, je n'ai pas toujours été l'animateur du groupe des collégiens, des Aigles. C'est depuis seulement une dizaine d'années que je me suis engagé dans ce service. Et idem, je ne suis pas prédicateur laïque depuis toujours. Quand j'étais missionnaire, en fait, j'étais missionnaire technique. Ça veut dire que la mission avait besoin de support technique, et j'étais responsable de tout ce qui était construction, groupe électrogène, voilà, faire des écoles, des dispensaires, des maternités, des églises. Mais je n'avais pas fait une formation biblique avant de partir comme missionnaire. Donc je n'avais pas d'engagement biblique, ni de prédication, ni autre, dans l'église sur le champ missionnaire. Et c'est vrai que j'avais aussi beaucoup de travail qui me prenait toute la journée, parfois même le samedi, parfois même aussi le dimanche, bon, ça, ne faut pas le dire. Mais... Et dans ce contexte, un jour, le pasteur m'a appelé. Il m'a dit, dimanche prochain, c'est toi qui vas prêcher. Oups, imaginez-vous, hein. Toi, dimanche prochain, tu vas prêcher. Bon, j'étais un petit peu interloqué, et dans ma tête, en quelques secondes, en quelques dixièmes ou millièmes de seconde, j'étais en train de me dire, ah ben non, Je vais pas accepter parce que je n'ai pas été appelé pour ça. Je n'ai pas fait la formation pour ça. Et en même temps, je me suis dit, mince, il est quand même gonflé. C'est lui qui est payé pour être pasteur et prêcher. Il est paresseux quand même. Hein, il veut me faire faire son boulot. Donc j'avais comme ça toutes ces idées qui se bousculaient dans ma tête en un éclair. Et j'allais dire non. Ouais, c'est humain. Mais à la même seconde, j'ai compris qu'à travers sa demande, en fait, c'est le Saint-Esprit qui m'appelait et qui m'invitait à m'engager pour la prédication. Et que je n'avais qu'à lui faire confiance pour cette nouvelle responsabilité. Alors, même si j'étais convaincu que c'était par paresse que le pasteur me demandait de prêcher à sa place, j'ai répondu au Saint-Esprit, oui, j'accepte de m'engager pour la prédication. Depuis ce jour, j'ai prêché au Cameroun pendant que j'étais là-bas, environ une fois par mois. J'ai aussi suivi des formations, parce que c'est vrai, je n'étais pas préparé. Donc j'ai répondu à l'appel, mais en parallèle, j'ai aussi suivi des formations pour augmenter mes compétences dans ce domaine. Alors, je n'ai pas fait la formation en théologie avec un diplôme complet, ça aurait été trop long à obtenir, mais en tous les cas, jour après jour, le Seigneur nous aide à nous former, à nous équiper, même si c'est pour une tâche nouvelle. Il nous appelle pour des tâches qu'on n'a jamais imaginées. Mais s'il nous appelle, c'est que derrière, il a quelque chose, il a réfléchi aux choses. Il ne fait pas ça par hasard. Alors, vous-même, Dieu vous appelle à le servir. À vous de discerner dans quel domaine d'activité. Est-ce que c'est pour prendre l'avion et partir au loin, en Thaïlande ou à Djibouti, que sais-je ? Peut-être. Mais en tous les cas, si vous recevez cet appel, ne résistez pas. À l'image du témoignage que je viens de vous donner, obéissez à la voix du Saint-Esprit. Je ne vais pas vous faire une prédication sur le Saint-Esprit et sur le discernement. C'est très intéressant, hein, mais en tous les cas, ce n'est pas le moment. Mais je suis convaincu d'une chose. Si nous endurcissons notre cœur, si nous n'écoutons pas sa voix, alors il nous parle de moins en moins fort. Et il finit par se taire. En fait, le Saint-Esprit, il ne se tait pas. Lui, il continue toujours à parler et à nous appeler. Mais c'est notre oreille qui se ferme. C'est notre oreille qui entend de moins en moins bien, jusqu'à être sourde et au risque d'être comme ces gens dont le prophète a parlé. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez rien. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez rien. Voilà, donc l'écoute du Saint-Esprit, plus on écoute et plus l'oreille s'ouvre et plus on entend. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est l'obéissance, hein, le bouton du volume, le réglage, c'est l'obéissance. Si on n'obéit pas, ça s'arrête. Alors, pour conclure, quoi de mieux que de laisser à la Bible, la parole de Dieu, le soin de nous parler. Dans Hébreux 13, verset 15, qui nous dit « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. Je vous invite donc, soyez des disciples, et alors vous serez en capacité de faire des disciples. » Ne faites pas l'inverse. Il faut d'abord être disciple avant de faire des disciples. À la fin du culte, j'ai donné un petit montage de photos à projeter. Donc elles passeront, voilà, vous pourrez y jeter un coup d'œil. C'est des photos que j'ai prises moi-même. Et donc, le thème principal, hein, ce n'est pas que, mais c'est la place aussi des enfants dans la mission. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour cette écoute. J'espère que vous ne m'avez pas écouté moi, mais que vous avez écouté le Saint-Esprit, vous parler à votre cœur, et qu'il puisse vous donner la volonté de vous engager à le suivre, à lui obéir. Amen.